un tout autre domaine, mais qui est lié au dépassement aussi, c'est celui de la faim dans le monde, de la malnutrition, qu'on pensait avoir dépassé cette faim, enfin en partie en tout cas. Et puis voilà, il y a des constats aujourd'hui alarmants que font certaines organisations, dont Helvetas. Aude Markovic, bonsoir, merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir.
Aude, la faim dans le monde, malheureusement, alors qu'on pensait l'avoir en partie vaincue, on ne l'aura jamais complètement vaincue, mais en tout cas qu'on avait fait reculer un certain nombre de chiffres qui étaient très inquiétants, ben voilà, les progrès ont tenu un petit coup, mais pas très longtemps, hein, puisqu'on parle de 828 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. C'est quand même un chiffre impressionnant.
Oui, c'est impressionnant, hein. Ça fait à peu près 10% de la population mondiale qui souffrent vraiment de faim. Et puis, comme vous le disiez, effectivement, on avait l'impression... Alors, on ne pensait pas avoir vaincu la faim, mais il y avait des progrès constants pendant une dizaine d'années qui allaient dans le bon sens, où il y avait de moins en moins de personnes qui souffraient de faim chaque année. Et puis, paf, là, les chiffres qu'on a maintenant depuis l'année passée font exactement preuve du contraire. C'est-à-dire que, en fait, la tendance, c'est que le progrès s'est inversé et qu'on a de plus en plus de personnes qui sont malnutries dans le monde. Et ça, pour plusieurs raisons.
Et pourquoi en particulier, justement ?
Ben, en fait, il y a une conjonction de facteurs ces dernières années. Donc, la crise du Covid avec tous les blocages d'exportation de marchandises, évidemment, d'exportation aussi de nourriture. C'est une des raisons, avec le fait que les gens ont été confinés, qu'ils n'ont pas pu aller travailler. Évidemment, c'est une raison très importante. Il y a la crise climatique qui provoque dans beaucoup de pays des changements absolument très très important dans l'agriculture. On pense, par exemple, ce qui vient de se passer il y a peu de temps au Pakistan, avec des inondations qui ont un tiers du pays qui était sous l'eau, hein, c'est énorme, et des dizaines de millions de personnes qui ont été déplacées et qui ont vu leurs champs complètement inondés. C'était aussi la période bientôt des semences, et donc comment est-ce que vous allez pouvoir faire la récolte l'année prochaine si vous ne pouvez pas ensemencer cette année? Donc ça, c'est des changements énormes. On trouve ça dans la Corne de l'Afrique, qui subit cette année une sécheresse extrêmement importante, la plus importante depuis ces 40 dernières années. La Corne de l'Afrique, c'est la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, où des millions de personnes aujourd'hui sont en état de presque de mort, pour certaines déjà, surtout les enfants bien sûr, mais qui sont en état de malnutrition très avancé parce qu'il n'y a pas eu de pluie, il y a eu des sécheresses qui se sont accumulées, et puis il n'y a pas de nourriture pour les gens qui se déplacent, qui n'ont plus le bétail, qui meurt et qui n'ont plus de quoi survivre. Et puis le troisième facteur, c'est bien sûr la guerre en Ukraine, qui provoque toute une série de conséquences, la hausse des prix du carburant dans les pays en développement. Vous n'arrivez pas à vous déplacer quand vous êtes un agriculteur et que vous devez aller vendre au marché vos produits parce que ça devient extrêmement cher de se déplacer. C'est aussi évidemment toutes les exportations de blé russe et ukrainien, les exportations d'intrants, c'est-à-dire les fertilisants ukrainiens qui ne sont pas arrivés dans les marchés des pays en développement, et les pays en développement qui sont déjà un peu à la limite, et bien du coup, les gens, ça les fait tomber dans des conditions catastrophiques.
Alors, il y a ce constat, évidemment, qui est inquiétant et qui est, je dirais même, angoissant, mais il y a des possibilités, et c'est ce que vous essayez avec Helvetas de développer, par exemple, en essayant de trouver des alternatives à une agriculture industrielle.
Oui, non, mais c'est vrai, à part ça, hein, c'est de ça qu'il est bon aussi de parler, c'est qu'effectivement, on a l'impression que le problème est énorme, et le problème mondial, et que c'est insoluble, mais n'empêche qu'au niveau local, avec les gens, et sur, effectivement, chez Helvetas, on tient vraiment à cœur le fait de travailler avec les gens et de discuter ensemble quelles sont les meilleures solutions. On arrive à trouver quelques pistes. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Je vais vous donner par exemple l'exemple au Népal. Il y a un projet qui s'appelle Rivière Florissante. Et c'est l'idée que pour les paysans qui n'ont pas de terre, il y a toute une série de la population qui est sans terre, eh bien, on a trouvé un peu une idée en leur proposant de cultiver les lits des rivières asséchées, donc en période en dehors de la saison des pluies, et de faire des petits jardins potagers, hein, de la culture maraîchère dans le lit qui est donc un sol fertile, humide. Et puis alors Helvetia se fournit différentes aides, les semences, les outils, l'accès au microcrédit. Et puis ces petites choses-là ont permis à toute une partie de cette population très pauvre de sortir justement de leur pauvreté parce qu'ils avaient un petit potager et que tout à coup il y avait des légumes à disposition dans des terres qui n'appartiennent en fait à personne, puisqu'ils sont en fait des rivières dans le reste de l'année. Ça par exemple c'est une idée. Et puis il y a le Mali, donc un état d'Afrique subsaharienne, où il y a une conjoncture de problèmes. Alors il y a des problèmes politiques extrêmement graves avec une insécurité croissante, le djihadisme aussi qui est arrivé donc dans cette partie de l'Afrique, et puis des changements climatiques très importants qui font qu'il y a de plus en plus de problèmes de famine, et aussi une surexploitation des sols. Alors la question aussi, c'est comment on fait justement pour avoir une agriculture durable dans ces pays, et parfois de revenir justement à d'autres types de cultures qui étaient des cultures, ce qu'on pourrait dire un peu ancestrales, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été... on a quitté certaines formes de culture, pas forcément pour le mieux. Et du coup, ça a appauvri les sols. Alors au Mali, on a tout un projet, par exemple, qui est d'enseigner à des jeunes agriculteurs ou à des moins jeunes de trouver, avec les précipitations et de se renseigner avec les stations météorologiques et puis à l'aide de smartphones, quel sera le moment où les précipitations vont arriver, et puis qu'en fin de compte, il faut attendre un peu que la pluie arrive et qu'elle pénètre vraiment les sols pour pouvoir avoir un vrai résultat en fait dans la culture des semis qu'on va mettre. Et ça, c'est des petites choses qui sont en fait une formation un peu différente, un peu alternative par rapport à ce qu'il faisait ces dernières années, et qui permet effectivement de régénérer les sols et puis d'apporter une culture qui est plus intéressante et plus solide. Et puis aussi les barrages qui doivent être remis au goût du jour, et puis il y a toute une série de conséquences très positives, par exemple dans les barrages qui ont été réhabilités, il y a des poissons qui sont plus importantes, on peut refaire de la pêche et puis de cultiver, enfin pas de cultiver, mais de pêcher des poissons qui peuvent nourrir aussi les gens sur place. Donc ça, c'est des choses, des petites choses comme ça qui mis bout à bout, en fait, peuvent sortir les gens de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté.
C'est intéressant ce que vous nous racontez, parce qu'on a parfois l'impression que le dépassement, c'est quelque chose d'universel et de magistral. On se dit, comment faire face à cette agriculture industrielle qui est responsable d'une grande partie des gaz à effet de serre, du défrichement des forêts, etc. Puis finalement, c'est un peu comme le colibri, non ? C'est ça ? C'est un peu cette histoire-là, d'une certaine manière.
Non, mais c'est vrai, c'est que en fait, parfois, il faut commencer simplement autour de soi, puis regarder ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et puis, effectivement, il y a un problème global, par exemple, le prix des denrées alimentaires qui a explosé, d'ailleurs, avant la guerre en Ukraine, et qui est dû à toute une série de facteurs qui nous dépassent complètement, c'est-à-dire la spéculation sur les marchés boursiers, sur les marchés de vente et d'achat de produits alimentaires, ça dépasse complètement les agriculteurs, c'est évident. Et puis, les ports, et le chaos que ça peut être, les importations, les exportations, le Covid évidemment, où on est absolument incapable de pouvoir imaginer une chose pareille avec tout à coup l'arrêt d'exportation, enfin voilà. Mais tout à coup on essaie de trouver des solutions alternatives. On a d'autres exemples, par exemple au Liban, qui est un pays où il y a de plus en plus de pauvreté, et puis qui était très dépendant eux aussi des importations ukrainiennes et russes. Et là on a tout un programme avec des agriculteurs pour essayer de faire des fertilisants locaux. Donc on n'est plus dépendant des fertilisants ukrainiens, mais on essaie de produire des fertilisants locaux. Et puis on a ouvert un petit marché avec ces agriculteurs à Beyrouth, dans la zone où il y a eu la fameuse explosion au port de Beyrouth qui a touché toute une partie de la population de la ville et qui a appauvri aussi toute une partie de la population de la ville. Et ces agriculteurs qui viennent de l'extérieur de la ville viennent vendre directement leurs produits donc à des prix préférentiels parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est eux qui viennent vendre les produits à des gens qui eux-mêmes ont des besoins différents parce qu'ils se sont appauvris parce qu'ils ont perdu une partie de leurs biens dans l'explosion du port. Et puis on met ces gens en relation et on crée quelque chose de différent, on crée une dynamique positive. Et on arrive aussi à sortir ces agriculteurs qui étaient un peu avec le couteau sous la gorge dans une situation nouvelle où ils reprennent en fait leur destin en main quelque part grâce à des initiatives où nous-mêmes on y a réfléchi en travaillant avec les locaux, avec d'autres ONG locales et puis aussi parce que d'autres actions similaires dans d'autres pays du monde où on est actif ont fonctionné. Donc il y a une espèce de grand réseau comme ça et puis on se dit pourquoi pas essayer là ce qui a marché ici. Voilà, donc ça, c'est des trucs très positifs. Rien n'est totalement déterminé.
Merci, Aude. Une petite question que je vous pose. Vous avez vécu comme correspondante dans un pays en guerre. Vous pensiez qu'un jour, en rentrant en Europe, vous auriez la guerre en Europe aussi ? Enfin, à nos portes.
Jamais de la vie. Et puis, qui nous touche, tous, tellement. Enfin, je veux dire, évidemment, quand on vit en Ukraine, ça nous touche bien plus. Et puis... ça nous touche de manière très différente que ce que nous on vit ici. Mais néanmoins, on en a aussi les conséquences avec non seulement l'arrivée des réfugiés, mais maintenant on se pose la question sur l'hiver, est-ce qu'on sera assez chauffé, est-ce qu'on payera trop, etc., etc. Enfin, c'est tout à fait étonnant, quoi. Mais en même temps, moi je viens quand même de familles qui ont tous vécu des guerres, et puis donc je sais que ça existe dans l'histoire de l'humanité. C'est pas très positif comme constat, mais voilà.
Une réalité. Merci beaucoup, Aude. Merci d'être venu parler de ce travail qui permet de dépasser les constats qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de la malnutrition et de la faim avec le travail d'Helvetas que vous représentiez aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt. Au revoir.